R22 Tout Monde, antenne, la galerie de Noisy-le-Sec.
Bonjour à tous. C'est assez impressionnant d'avoir autant de monde, c'est super. Je vais essayer, rappelez-moi, hein, s'il y a des moments où vous voyez que je baisse un peu la voix, faites-moi ça, ça sera très très bien. Alors, juste une toute petite chose, vous voyez que j'ai des notes. La conférence que je vais vous présenter est écrite, néanmoins, je vais faire attention à ne pas avoir le nez sur mon papier, mais je vous dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que je vais vous dire. Le langage, la précision du langage est très importante. Et c'est pas que j'ai, c'est pas que j'ai pas envie de m'adresser à vous de manière plus spontanée. C'est que c'est très important pour moi aussi de pouvoir travailler avec des mots spécifiques. Et vous comprendrez, le travail, en particulier le travail que je vous présente aujourd'hui, est une construction théorique. Qui, dans lesquels justement la place des mots et des questions de définition, de redéfinition des mots joue un rôle important, d'où aussi l'importance pour moi, peut-être pas tout le temps, mais à certains moments de me référer à quelque chose qui est écrit et pas seulement de me reposer sur ma parole improvisée ou spontanée. Donc en tout cas, je vous préviens parce que je pense que c'est quelque chose à laquelle on doit être sensible quand on est spectateur d'une conférence de ce type. Et c'était important pour moi de vous le dire. Alors juste quelques mots sur le contexte. Moi, je suis commissaire d'exposition et c'est lors de précédentes discussions avec Émilie Renard qui ne concernaient pas directement cette exposition, mais où j'ai évoqué avec elle mes recherches de thèse. Je viens de terminer mon doctorat. Et je pense que ça a fait, les discussions qu'on a eues ont fait leur chemin dans l'esprit d'Émilie et qu'elle a souhaité. Elle m'a proposé d'aborder avec vous ce point spécifique de mes recherches en écho avec l'exposition Hypernormandie de Pierre Joseph. Donc la question que je vais traiter aujourd'hui pendant cette conférence, donc on a intitulé « La passivité, un concept révisé et augmenté », ce n'est pas ma thèse, enfin ce n'est pas, le concept de passivité n'est pas l'objet de ma thèse, mais c'est un concept qui a joué un rôle très très important dans le contexte de ma recherche. Et j'espère que ça deviendra plus clair au cours de la conférence. Donc je vais débuter cette conférence en posant une question un petit peu rhétorique. Pourquoi s'intéresser au concept de passivité? Quel contexte institutionnel, quelles normes seraient concernées par la tentative de remettre en question notre compréhension de ce terme et ce qu'il sous-entend vis-à-vis des pratiques? Vous allez voir qu'on va pouvoir, c'est ma volonté, s'en servir de ce concept dans le contexte, dans différents contextes, mais toujours vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques. Et ça va aussi s'éclaircir au fur et à mesure de la conférence. Tentons d'ores et déjà d'en donner une définition quotidienne de ce terme de passivité, c'est-à-dire tentons d'exprimer ce que pour chacun de nous, ce terme évoque immédiatement dans le contexte du langage, et d'un langage qu'on va désigner, sans que ce soit péjoratif, comme ordinaire. Pour cela, nous pouvons lui associer d'autres termes, et je vous avoue que je m'appuie tout simplement sur des définitions de dictionnaire. Donc on pourrait dire que la passivité, c'est synonyme de ne pas agir par soi-même, de ne pas accomplir une action, de subir, de manquer d'énergie, de ne pas réagir. On lui associe aussi les noms, les termes d'inertie ou d'apathie. À la lecture de ces associations, on ne peut s'empêcher d'associer la notion de passivité avec des situations plus spécifiques, des formes de domination à travers lesquelles l'individu dit passif est celui qui est dominé, forcé, contraint, l'idée d'être possédé physiquement mais aussi mentalement, ce qui peut suggérer un embrigadement sectaire, aussi bien que des désordres de type psychique ou moraux. Dès lors que je tente de définir ce terme de passivité, je me trouve bien en mal d'éviter d'envisager ce concept sans le poids d'un attirail idéologique qui me paraît, pour ma part, bien suspect. La domination, la pathologie, la déficience, la moralité. En tant que femme, en tant que commissaire d'exposition, en tant que chercheur, j'ai à maintes reprises été conduite à remettre en question, voire à démanteler des approches pratiques et théoriques, imposant des normes, ces normes, qui visent à affirmer la suprématie d'un groupe sur un autre ou d'un ensemble de valeurs sur un autre. Des normes qui nous encouragent fortement à accepter un tri à la fois discipliné et disciplinaire, qui nous dirait ce qu'il faut voir, ce qu'il faut croire, savoir ou faire, ce qu'il faut penser ou dire. Donc, confrontée à la question de la passivité, j'ai eu l'impression d'être nettement du mauvais côté de la barrière, du côté des vaincus, des dominés, des déficients, des inactifs, des bons à rien. Cette triste liste pourrait être encore bien longue. Dans le contexte politique et économique actuel, elle a aussi une résonance très particulière. Cela m'a donc posé un problème, car par ailleurs, différentes expériences auxquelles j'ai été directement confrontée dans le contexte de ma propre pratique de commissaire d'exposition m'ont mise face, au contraire, à des formes de passivité qui m'ont semblé intéressantes, voire importantes. Ce sont ces formes de passivité que je vais tenter ici d'introduire comme un ensemble complexe de propositions qui ne créent pas un ensemble de propositions cohérentes, mais au contraire, finalement, font émerger des contradictions, des paradoxes, et ne permettent pas simplement d'ériger une pensée monolithique de la passivité contre une pensée de l'activité. C'est là peut-être ce qui est le plus passionnant dans la possibilité de penser la passivité. La passivité ne s'oppose pas à l'activité. Elle ne la précède pas non plus dans le temps chronologique. La pensée de la passivité est paradoxale. Ce terme paradoxal est le premier terme qui va nous permettre de nous engager dans une réflexion sur la passivité, car ce terme est essentiel dans la première expérience qui m'a mise face à la question de la passivité, c'est la pratique de l'hypnose. Donc je m'excuse par avance parce que de la dimension schématique de ce que je vais dire à la fois sur l'hypnose en tant que telle, qui est un phénomène extrêmement complexe, et certains d'entre vous peut-être le connaissent mieux que moi, et sur le travail d'un artiste, Matt Mullican, à travers lequel j'ai été sensibilisée à la pratique hypnotique. Je m'en excuse parce qu'en fait, la nécessité d'être concise impose une certaine forme de simplification. Donc, nous sommes en 2007 à Londres. Je travaille alors comme assistante commissaire à la Tate Modern pour le programme de performance. Une performance sous hypnose de Matt Mullican est programmée et je travaille avec lui et son équipe pour la mise en œuvre de l'événement. À ce moment-là, je ne connais pas très bien son travail, mais cette performance a un impact très fort. C'est une rencontre complexe, car elle est à la fois de nature artistique, mais aussi de nature psychologique. L'état dans lequel l'artiste se trouve pendant la performance m'interpelle profondément quant à l'impact de l'hypnose sur sa psyché. Alors, je vous montre ici deux images. Ça aurait été intéressant de montrer des éléments vidéo, mais encore, malheureusement, on manquerait de temps. Mais je vais essayer de vous en dire quelques mots quand même. Mullican apparaît en effet très perturbé lorsqu'il se trouve sur scène en état d'hypnose. J'insiste sur la combinaison de deux états. Sur scène d'une part, en état d'hypnose d'autre part. L'état hypnotique n'est pas du tout un état que l'on pourrait définir une fois pour toutes en pensant qu'il serait commun à différents individus. L'état hypnotique est décrit comme un état paradoxal, ni endormi, ni complètement réveillé. Il a cela de singulier qu'on peut difficilement faire une liste exhaustive de ses manifestations visibles, et j'évite là volontairement le terme de symptôme. Il est même très difficile de dire si une personne est véritablement sous hypnose. Les notions de vérité et d'authenticité sont mises à mal ainsi par la nature de l'hypnose. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Tout d'abord, dans le cas de Matt Mullican, la difficulté que quiconque a à dire si quelqu'un est sous hypnose suppose qu'il y a un doute essentiel quant à la nature de sa performance. Mullican est-il sous hypnose ou joue-t-il la comédie ? Matt Mullican répondrait « Peu importe, car le public ne regarde pas une séance d'hypnose, mais une œuvre artistique. » Néanmoins, dans le contexte de l'art, une question semble pouvoir se poser. Si Mullican est sous hypnose, quel contrôle conserve-t-il sur son œuvre ? Est-il en quelque sorte possédé par l'hypnotiseur, qui lui ferait faire ce qu'il désire ? Mullican serait-il relégué au rang d'acteur ? Entendez ici ce que je sous-entends. Si Mullican est un acteur soumis au désir d'un autre, est-il toujours l'auteur de son œuvre ? On voit bien que toutes ces questions, dans le contexte de l'art, ne sont pas nouvelles. À leur époque, les artistes associés au surréalisme avaient déjà expérimenté des processus dont l'hypnose, qui mettait à mal le rôle de la raison, de la conscience et de la volonté au cœur de l'expérience artistique. La dimension romantique de cet héritage surréaliste, à travers lequel l'art prend le parti de ce qui serait au-delà, l'excès, la folie, ou en deçà, l'inconscient, les pulsions de la raison et de la conscience, n'est pas complètement étranger à l'œuvre de Mulligan, mais cette dernière se place ailleurs, dans une exploration de la fiction et des processus d'identification qui sont justement communs à l'acteur de théâtre et à l'enfant. Mais revenons donc à cette question de la passivité. Qu'est-ce qu'il y a de passif dans le travail sous hypnose de Matt Mulligan ? Qu'y a-t-il de passif dans l'expérience hypnotique tout court ? Lorsqu'on aborde le phénomène complexe de l'hypnose, on se rend rapidement compte qu'il n'y a pas une pratique hypnotique, mais des pratiques dans les champs de la magie, du théâtre, du musical, de la psychothérapie ou de la médecine. Un autre fait important, c'est qu'au-delà de cette diversité de pratiques de l'hypnose, on doit aussi être conscient de l'évolution de ces pratiques. Aujourd'hui et depuis le milieu du XXe siècle, la question de l'éthique est devenue fondamentale dans la pratique de l'hypnose. L'hypnose moderne, souvent associée au psychiatre américain Milton Erickson, s'émancipe d'une hypnose traditionnelle en postulant la nécessité pour le patient sous hypnose de conserver sa capacité agissante, c'est-à-dire de refuser au thérapeute, utilisant l'hypnose, la possibilité d'interférer avec l'action du patient en s'imposant à lui par le biais d'une forme autoritaire de suggestion. Partant de là, on pourrait donc dire que dans le contexte de l'hypnose, l'action de l'hypnotiseur sur l'hypnotisé offrirait au moins deux directions bien distinctes pour penser la manière dont un individu interfère sur l'autre. D'un côté, l'hypnose traditionnelle supposerait que l'hypnotisé n'agit pas par lui-même, on est renvoyé directement à notre première définition ordinaire de la passivité. De l'autre, une hypnose moderne qui suppose que l'hypnotisé conserve sa capacité agissante. Pourtant, dans ce second cas, peut-on néanmoins nier l'existence d'une forme de passivité ? L'hypnose moderne envisage en effet une relation au cœur de laquelle un individu, le praticien de l'hypnose, agit sur un autre, l'hypnotisé, afin de le rendre disponible à une transformation. Dans ce contexte, il semble que l'opposition entre passivité et action ne fonctionne plus. Donc, je passe rapidement, mais je voudrais maintenant mettre en avant l'apport philosophique qui a joué un rôle crucial dans mon exploration de la passivité en relation à l'hypnose. En 1984, le philosophe Jean-Luc Nancy contribue à un ouvrage collectif qui s'intitule « Hypnose au pluriel », aux côtés du philosophe et historien de la psychanalyse Michael Bork-Jacobsen et de l'historien de l'art Éric Michaud. Dans leur introduction commune, j'ai soustrait trois citations qui me semblent importantes pour un peu circonscrire des aspects importants de leur remise en question de l'hypnose et de la passivité. Nous parlons d'une limite. Une limite de la conscience, du rapport de l'individualité, du pouvoir, de la pathologie, etc., c'est que dans l'hypnose, il s'agit d'une démultiplication ou d'une dissociation de l'identité, de l'activité, de la propriété, ou encore du désir, de la volonté, de la présence. Nous interrogeons seulement ce qui, de la passivité ou d'une passion plus archaïque encore que celle qui est en jeu dans le couple actif-passif, affleure autant dans le procès-verbal de l'analyse que dans le discours de la philosophie, dans l'épreuve de la pensée, dans l'expérience de la singularité et de la communauté. Limite, démultiplication, dissociation, ces trois termes montrent bien en quoi une pensée de la passivité met à mal un édifice normatif au cœur duquel se trouvent les notions de conscience, d'individu, d'activité, de pouvoir et de propriété. Pour Nancy, l'hypnose met à jour une pensée de la passivité qui ne s'accommode pas facilement de cette construction normative. Nancy écrit, et là j'ai encore une fois mis en exergue quatre citations courtes. L'état de la passivité offre ce caractère remarquable de ne plus être, ou d'être à peine, à la limite seulement, un état du sujet. S'il est ainsi en présence, le sujet, c'est comme une pure présence qui n'a pas pour soi de présent et ne se présente ni représente rien, seulement offerte à la représentation de l'autre. La passivité n'est en fait que cela, qu'il lui arrive quelque chose d'ailleurs de l'autre, qu'il lui arrive du différent. La passivité n'est pas la propriété d'être passif, et par exemple de se laisser donner ou imprimer telle ou telle marque. La passivité ne fait rien, pas même sur ce mode du faire qui serait encore celui de se laisser faire. La passivité n'est pas individuelle, on peut être actif seul, mais on ne peut être passif qu'à deux ou plusieurs. La passivité est de l'individu ce qui tremble et s'écarte de lui, l'écartant de soi, l'espaçant d'un battement. J'aimerais ici qu'on retienne de ces contributions autour des hypnoses, et en particulier celle de Nancy, l'idée que, pensée à partir de l'hypnose, la passivité se dissocie de la définition ordinaire que j'en ai donnée en introduction et ouvre la voie à une autre approche qui se distingue par son refus de penser la passivité comme étant propre à l'individu. Dès lors que l'on envisage la passivité comme étant une qualité du rapport à l'autre, aux autres et au monde, tout semble bouleversé. Cela implique un fondamental décentrement, une cruciale dispersion de la pensée, laissant de côté l'individu en faveur d'un rapport plus complexe à la communauté. Un terme important dans ce nouvel échafaudage théorique, c'est celui de disposition. La passivité ne serait donc pas le fait de subir, de ne pas agir, d'être dominé, mais la passivité offrirait la possibilité de se rendre disponible à une relation et à une transformation. D'un seul coup, les termes d'inertie, d'apathie ou d'inaction s'effacent pour faire place à une autre terminologie, disposition, empathie, potentialité, expérience affective. Donc je pense que c'est, en tout cas j'espère que c'était clair, ce moment de l'hypnose a été pour moi un moment vraiment inaugural et charnière dans une prise de conscience d'une question de la passivité, mais ma trajectoire de recherche s'est poursuivie finalement afin de tenter de voir si cette question de la passivité qui s'ouvrait dans le contexte de l'hypnose et dans le contexte de pensée qui était proche de l'hypnose allait pouvoir se retrouver dans d'autres types de pratiques et se révéler aussi pertinent dans d'autres contextes. Et je vais là pas vous parler de toutes les pratiques à travers lesquelles que j'ai pu naviguer pour pouvoir continuer d'échafauder une nouvelle définition de la passivité. Mais je vais insister sur une autre rencontre qui est celle que j'ai faite avec le travail de recherche de Michel de Certeau. En particulier, le travail de Michel de Certeau sur les pratiques mystiques. Dans ce contexte, la question de la passivité a agi à deux niveaux. D'un côté, la question de la passivité se pose dans les pratiques mystiques elles-mêmes, telles que Michel de Certeau en a fait un objet de recherche. Mais d'un autre côté, c'est dans la démarche et la réflexion historiographique de Michel de Certeau, mettant en avant ses questionnements éthiques vis-à-vis de son rôle d'historien, que la question de la passivité s'est aussi révélée très pertinente. Donc je vais donc essayer d'exposer clairement les enjeux de cette passivité au cœur de ces deux pratiques, les pratiques mystiques d'une part et la pratique historiographique de Certeau, d'autre part. La mystique fait d'abord référence à des trajectoires individuelles comme autant de modes de discours ayant à leur époque investi de manière très singulière l'utilisation du « je » dans l'écriture. Il y a autant de pratiques mystiques que d'individus incarnant ces pratiques du point de vue de la parole et de la pensée. La mystique caractérise un mode spécifique de discours et d'énonciation qui diffère des formes traditionnelles par leur qualité littéraire et poétique spécifique. La mystique, on la connaît comme une figure historique spécifique, spécifique à l'histoire des idées en Occident, que les historiens ont située approximativement au XVIe et XVIIe siècle. Michel de Certeau reconnaît néanmoins que la mystique, en tant qu'objet de recherche, ne cesse d'excéder le cadre de l'analyse et défie finalement toute tentative de fixer scientifiquement cet objet. Il envisage le problème posé par la mystique lorsque celle-ci réapparaît dans le contexte des sciences sociales et il écrit « Objet en transit, le phénomène bouge et se transforme dans la case qui lui a été fixée. Il faut donc circonscrire formellement ce qu'on entend par mystique. Travail de Sisyphe, l'objet ne cesse de retomber hors du lieu théorique où une définition l'a élevé. » Alors la question se pose, pourquoi s'intéresser aux pratiques mystiques dans le cadre d'un questionnement sur la passivité? Les pratiques mystiques, à quoi nous renvoient-elles? Elles nous renvoient à la question de l'expérience spirituelle, à l'origine ancrée dans un contexte chrétien. La notion d'expérience spirituelle dans le contexte de la mystique nous met non seulement face à la question de la croyance religieuse, mais au-delà de la question de la croyance, d'un ensemble d'événements, visions, extases, lévitation, le fait d'entendre des voix, dont le sujet mystique affirme faire l'expérience. Ces événements sont à la fois inattendus, imprévisibles, et en ce sens, le sujet mystique les subit. Même si on le verra, les mystiques cherchent à rendre leur corps le plus hospitalier possible pour accueillir cet autre qui se manifeste à travers ces expériences. L'écriture dans les pratiques mystiques souligne ainsi le désir de dire l'autre et de jouir de cette expérience de l'altérité à travers l'écriture, avec toute la difficulté d'articuler de telles expériences dans la langue. L'écriture mystique se caractérise ainsi par son effort de sobriété et de dépossession, de sorte qu'elle puisse transformer le corps du mystique en un lieu vide qui puisse accueillir l'étranger. On trouve cette idée d'une hospitalité active, un désir de se rendre disponible à l'autre qui est absent. Il y a dans la mystique cette idée qu'une identité propre serait un artifice, que l'on doit tenter de ne pas s'appartenir pour donner naissance à un corps vivant et désirant, plein du désir de l'autre. La mystique propose ainsi une scène épistémologique sur laquelle l'approche de l'être, du sujet, de l'identité, comme entité stable et unique, est complètement remise en question. Les pratiques mystiques nous offrent néanmoins un modèle très paradoxal vis-à-vis de la passivité. On trouve dans ces pratiques une résistance à la norme institutionnelle imposée par la religion au profit d'une relation plus personnelle, plus incarnée de la croyance et de la spiritualité. Il semble que les mystiques nous mettent face à l'existence de formes différentes de possession. D'un côté, l'assujettissement à la norme serait ainsi mis face à une forme d'hospitalité spirituelle active à travers laquelle le sujet s'expose à une prolifération de contagions, d'altérations et de déplacements. On pourrait peut-être dire que les mystiques refusent en quelque sorte une conception volontariste de la croyance religieuse, donc une conception active de la croyance religieuse, au profit d'une forme d'abandon spirituel qui refuserait de penser la croyance en dehors de l'expérience. Et vous voyez là que j'insiste sur ces termes, conception active, volontariste, activité, qui est mise face à l'idée d'un abandon spirituel, et là, on pense tout de suite à une forme de passivité. J'aimerais insister ici sur l'importance de cette notion d'expérience, et aussi sur le caractère expérimental de la pensée mystique que Michel de Certeau a largement mis en lumière. L'expérience mystique n'entretient finalement de lien direct ni avec la foi religieuse, ni avec la raison scientifique. Elle met au contraire les deux au défi d'une autre forme de pensée, ce que Certeau appelle une science sauvage qui résiste à l'appropriation scientifique traditionnelle. La mystique nous ramène plutôt à la complexité de l'incarnation. On retrouve par ailleurs chez Jean-Luc Nancy une tentative similaire d'affirmer la singularité de l'expérience du corps. Et je vous donne sa citation ici. « Le tout de l'expérience est là, in nuce, dans l'expérience du corps, dans l'expérience que le corps est. L'âme est un nom pour l'expérience que le corps est, experiri en latin, c'est justement aller au dehors, sortir à l'aventure, faire une traverse, sans même savoir si on reviendra. Un corps, c'est ce qui pousse les limites jusqu'au bout, à l'aveuglette, en tâtonnant, en touchant donc. Dans la conception que je tente de vous proposer ici du concept de passivité, la notion d'expérience, au sens que lui donnent à la fois Michel de Certeau et Jean-Luc Nancy, est vraiment cruciale. Dans cette conception de la passivité, il y a l'idée de passer, de s'aventurer, d'errer, en se souvenant que le verbe « errer » partage la même étymologie que le mot « erreur », d'errer à l'aveuglette et ainsi de s'écarter de la norme. On pourra dire que tout cela n'a rien de passif, mais il est nécessaire de rappeler que l'enjeu ici est de s'écarter de cette définition ordinaire de la passivité pour explorer ce que la passivité peut proposer comme mode de pensée et de vie qui diffère d'une pensée disciplinée et rationnelle de l'activité. On dirait peut-être même de l'hyperactivité qui caractérise notre époque, dont la dimension éthique est questionnée de toutes parts. Dans sa pratique d'historien, Michel de Certeau lui-même réfléchit aux enjeux scientifiques et éthiques impliqués dans l'acte d'écrire l'histoire de sujets absents et d'événements dont on n'a pas fait l'expérience. Il met en avant une notion essentielle d'altération de la subjectivité dans la tentative de rentrer en contact, d'aller à la rencontre de l'altérité dans son objet de recherche. Pour Michel de Certeau, l'historien est fondamentalement altéré par son œuvre, dépossédé de son identité, alors qu'il prend en charge la responsabilité d'écrire l'histoire d'un autre, des autres. Il va également mettre en avant la notion de dette vis-à-vis de l'histoire, nous invitant ainsi implicitement aujourd'hui à réfléchir au statut de l'auteur et du chercheur vis-à-vis de la notion de propriété intellectuelle qui émerge dans les années 1960. Curieusement d'ailleurs, en comptabilité, ce qu'on appelle le passif correspond à ce que doit une entreprise en opposition à ses actifs. Dans le travail de cet historien, dont un des ouvrages célèbres concerne la fameuse possession de Loudun, un concept important vis-à-vis d'une recherche sur la passivité émerge, c'est le concept de dépossession. Il est important de noter, si cela ne vous a pas encore interpellé, en particulier avec ma dernière remarque sur la comptabilité, que la pensée de la passivité a une dimension économique importante qui est au cœur du terme même de possession. Posséder ou être possédé. La question essentielle, et elle a été posée par la philosophe des sciences Isabelle Stengers, dans un essai sur l'animisme, la question essentielle serait plutôt par quoi devrions-nous nous laisser posséder ? Le terme de dépossession, qui a récemment été au centre des échanges entre la philosophe américaine Judith Butler et la philosophe grecque Athéna Athanasiou, a beaucoup à voir avec le terme de passivité, car ils comportent tous deux une ambiguïté essentielle dans la mesure où ils font apparaître une menace. En effet, être dépossédé nous fait immédiatement penser à des actes violents et nuisibles exercés par les uns sur les autres, souvent plus vulnérables. On pense à être dépossédé de sa terre, de ses biens, de ses droits, de ses libertés. C'est indéniable, la dépossession ainsi définie est condamnable. Mais la dépossession à laquelle je fais référence, dans le contexte d'un redéploiement de la pensée de la passivité, est aussi une façon de reconnaître les limites du sujet libéral ou néolibéral considéré comme autonome. La pensée de la dépossession et de la passivité tente d'affirmer que l'exposition et la disposition aux autres, l'expérience de la perte et de la souffrance, la possibilité même théorique de subir normes et violences constituent la source de notre capacité à entrer dans une relation éthique. Cette dépossession est avant tout une dépossession volontaire, un désir, comme je l'ai envisagé avec les pratiques mystiques, d'envisager l'être et le corps comme des entités instables, dispersées, altérées par leurs relations aux autres et au monde. Je vais envisager maintenant la dernière partie de cette intervention, qui en fait va maintenant déplacer cette question de la passivité au sein de la pratique qui, moi, m'a concernée dans ma recherche et qui me concerne dans ma propre pratique, d'essayer de comprendre quels sont les enjeux d'une affirmation, d'une réappropriation de la passivité dans la pratique curatoriale, donc dans le fait d'exercer ce métier, alors qu'on va appeler maintenant curateur, pour éviter parfois de l'appeler commissaire d'exposition. Le problème dans ce terme commissaire d'exposition, c'est et l'exposition et le commissaire. Donc quelque part, le commissaire, ça nous renvoie à des questions très disciplinaires, voire policières, hein, dans les domaines économiques, militaires, juridiques, etc. Et la question de l'exposition, elle a aussi été largement remise en question dans les pratiques contemporaines, puisque les curateurs estiment que le champ de leur pratique dépasse aussi l'objet circonscrit de l'exposition pour toucher à d'autres formes, des conférences, des publications, etc. Donc le terme de pratique curatoriale est le choix que je fais plutôt que de parler justement de commissaire d'exposition. Ça correspond à ce que je viens de vous dire. Donc j'ai développé cet outil que je nomme passivité afin de tisser des liens entre différentes approches de cette pratique, de la pratique curatoriale, qui est confrontée de manière fondamentale à la question de l'éthique, et en particulier de l'éthique de la relation, dans la mesure où cette pratique, elle consiste à travailler à partir de ce que d'autres personnes, les artistes, produisent. Le manque de précision dans les termes que j'emploie, vis-à-vis de la définition des tâches du curateur, j'ai défini de manière très vague finalement que la pratique curatoriale, c'est travailler à partir de ce que font les artistes, c'est extrêmement vague, mais c'est volontaire, car en effet, il est de mon point de vue bien difficile aujourd'hui de déclarer de manière définitive ou exhaustive ce que sont les tâches de ce curateur dans le champ de l'art contemporain. Par contre, j'insisterai sur la spécificité d'une relation dans laquelle la pratique curatoriale dépend étroitement de la pratique artistique, dépendance, dette, hein, c'est des mots que j'ai déjà employés jusqu'à présent. Donc la pratique curatoriale est en quelque sorte endettée à la pratique artistique, tout en reconnaissant néanmoins, et c'est vraiment très important, que la pratique curatoriale n'est pas au service de la pratique artistique ou secondaire à elle. Tout l'enjeu est pour moi, à travers le concept de passivité, d'essayer de penser les relations entre pratique curatoriale et pratique artistique sur un plan horizontal, déhiérarchisé et entièrement adossé à des contextes spécifiques qui ne permettent pas de penser ces relations de manière abstraite, dépolitisée ou déshistoricisée. J'ajouterai cependant que ma position en tant que curatrice et chercheur postule que cette déhiérarchisation des relations entre ces deux pratiques est loin d'être la règle, et pour cette raison, il m'a semblé intéressant d'observer dans quelle situation et avec quels outils théoriques et pratiques les curateurs dérogeaient au modèle professionnel habituel et remettaient en cause les modes d'assujettissement en œuvre dans la pratique curatoriale. Donc je vais terminer finalement cette conférence en essayant d'énoncer une série de postures, de démarches qui ont retenu mon attention et autour desquelles j'ai construit ma réflexion. Alors, une nouvelle fois, je vous demande de comprendre que cette dernière partie, elle vise du coup à spécifier l'utilisation que j'ai faite du concept de passivité dans ma recherche. Elle n'est pas du tout exhaustive, c'est-à-dire que les différentes postures que je vais vous présenter, je vais me focaliser sur trois types de démarches. Je vais vous donner des exemples, mais je vous laisse aussi compléter cette possible liste, peut-être avec vos propres expériences et vos propres exemples, parce que même pour moi, cette liste n'est pas du tout arrêtée, et je vous demande de prendre ça en compte jusqu'à la fin de la conférence. Donc la première démarche, posture que j'ai choisi d'évoquer, c'est l'idée d'observer lentement. Donc je souhaite mettre en avant cette démarche d'observation, une observation lente et prolongée. Je pense que le contexte de l'exposition est particulièrement pertinent par rapport à cette idée. Un acte répétitif qui démontre sa capacité agissante, justement, on revient un peu à des termes que j'ai utilisés pour parler de l'hypnose, hein, attendez, Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, du tout. Bon, voilà. Donc un acte répétitif qui démontre sa capacité agissante dans la mesure où cette observation provoque une transformation de celui qui regarde comme de l'objet qui est regardé. Vous voyez là encore une fois que l'idée qu'il y ait une transformation de l'objet, de la personne qui regarde et de l'objet qui est regardé, l'idée de l'opposition entre une passivité et une activité n'est pas possible. Donc, il y a seulement un aller-retour entre différents types de positions. On ne peut plus polariser l'un et l'autre. Un témoignage pertinent d'une telle démarche d'observation lente et prolongée face à une œuvre d'art a été donné, non pas par un commissaire d'exposition, même si je suis persuadée qu'on pourrait trouver des exemples, mais en l'occurrence, j'ai essayé de m'appuyer sur un exemple qui est très public et vers lequel vous pourrez, après la conférence, si ça vous intéresse, aller trouver plus d'informations, puisque c'est ça aussi l'idée. Si je vous parle qu'autre chose que je n'ai vu que moi, ça n'a pas toujours un intérêt plus large. Donc ce témoignage, il a été donné non pas par un commissaire d'exposition, mais par un historien de l'art, l'historien de l'art d'origine britannique T.J. Clarke, dans l'ouvrage intitulé, excusez-moi, je le dis en anglais parce qu'il n'est pas encore à ma connaissance traduit en français, The Site of Death. Lors de sa résidence de recherche de 6 mois à l'Institut Getty à Los Angeles, T.J. Clarke est, pour le situer un petit peu, même si moi c'est pas quelqu'un dont par ailleurs je connais très très bien le travail d'historien, mais c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur le 19e siècle, qui est par exemple un spécialiste de Courbet. Donc il fait régulièrement des résidences de recherche, et là il était au Getty, et il s'est rendu compte que par un certain hasard, 2 tableaux de Nicolas Poussin, qui sont normalement à Londres, étaient en prêt au Getty à Los Angeles. Et il décide, parce qu'il a une histoire particulière avec une de ses peintures, qu'il a toujours interpellé de manière assez forte, il décide de commencer à observer de manière répétée, c'est-à-dire tous les jours, ces 2 tableaux. Et il choisit de transcrire par écrit ses réflexions quotidiennes sur les tableaux et de les enregistrer sous la forme d'un journal qui est publié sous le titre « The Site of Death ». L'entreprise expérimentale, hein, et là j'utilise un terme que j'ai déjà évoqué avant, mais qui est utilisé par l'auteur lui-même, le sous-titre de The Site of Death, c'est une expérimentation, an experiment in art writing, donc une expérimentation dans le champ de l'écriture de l'art. Donc cette idée d'une entreprise expérimentale s'inscrit en décalage avec la rapidité de circulation de l'information et de la circulation des images. Sa démarche est ainsi critique, mais elle ouvre également à une autre manière d'écrire et de faire l'expérience de l'art, à une autre relation avec l'œuvre elle-même, inscrivant dans l'espace dédié à l'écriture de l'histoire une place pour le fantasme, pour un autre rapport à la vision et au langage, émancipé par rapport à la rationalité, au positivisme propre à la démarche scientifique historique, par rapport aussi au contrôle exercé par l'auteur dans le contexte d'une écriture critique traditionnelle, et surtout par rapport aux habitudes contemporaines de spectateurs qui ne donnent plus à la vision la temporalité nécessaire pour que les images se densifient et donnent à voir des éléments quasiment invisibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très palpable quand on lit les entrées du journal de T.J. Clarke, à quel point, finalement, le tableau de Poussin, et je me souviens d'un article que j'ai lu qui rendait compte qui écrivait en fait une sorte de critique littéraire sur le livre lui-même, qui disait cette critique, elle disait j'ai fait l'expérience, je suis retournée voir le tableau de Poussin dont T.J. Clarke parle, et elle dit je n'ai pas vu les 80% des choses qu'il voit dans le tableau. Et elle dit très, très bien, finalement, elle reconnaît vraiment sur le plan matériel que cette observation lente, prolongée, quotidienne, a permis à T.J. Clarke de voir des choses qui n'étaient pas dans le tableau ou qui sont dans le tableau mais qui ne sont pas visibles à un œil qui s'exercerait pour la première fois à regarder une image. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fascinant dans cette expérimentation. Et là, c'est plus de l'ordre de l'anecdote, mais je me souviens, il y a pas mal d'années, je travaillais avec une commissaire d'exposition qui s'appelle Anne de Meester à Amsterdam, et elle me dit, oh, mon compagnon qui est lui conservateur, historien d'art, venait d'avoir un nouvel emploi au Rijksmuseum. Elle dit, c'est génial, son boulot, ça va être de passer des jours et des jours à ne regarder qu'une seule peinture. Et je me souviens, elle, qui était une commissaire d'exposition dans l'art contemporain, s'extasier à l'idée que c'était peut-être possible de faire que son métier ne soit que de regarder une œuvre pendant une période prolongée, comme c'est le cas pour T.J. Clark pendant 6 mois. Mais cette relation à la lenteur, à l'observation et à l'attention, si elle est rare dans le registre de l'exposition, moi je l'ai néanmoins expérimentée dans une exposition qui a eu lieu en septembre 2013 au FRAC Franche-Comté et qui a été conçue non pas par un commissaire d'exposition mais par une artiste, l'artiste Béatrice Balcou. Donc là je vais vous montrer seulement deux vues de cette exposition. Cette exposition, elle a des caractéristiques assez spécifiques. Elle a été présentée dans l'interlude entre deux autres expositions, brouillant les codes traditionnels qui régissent les espaces d'exposition en laissant les œuvres choisies, des œuvres de Manon Debord, Carole Douillard, Marge Friot, Laura Lamiel, Marie Lund et Béatrice Balcou elle-même, cohabiter dans les espaces dont le montage était en cours, en fait. Il y avait, en fait, la prochaine exposition qui allait ouvrir était déjà en cours de montage, et finalement, Béatrice Balcou a souhaité inscrire sa propre exposition dans ce moment, un petit peu entre deux types de temporalité, deux types d'espace spécifiquement. Si l'exposition ne durait que quelques heures, ce sont ces quelques heures, dans l'étirement de la durée de certaines œuvres et les occurrences répétées d'autres pièces, qui étaient néanmoins nécessaires à l'expérience proposée par l'artiste. Donc on a là, et là du point de vue de l'expérience que moi j'ai faite de ce projet, finalement, vraiment, on est mis face à la tentative d'offrir au spectateur une temporalité complètement différente dans la relation aux œuvres et à ce qu'on appelle aujourd'hui exposition. La deuxième posture ou démarche que je voudrais mettre en avant, et il y en a seulement trois, c'est ce que j'ai appelé la dispersion de la fonction d'auteur. Et là, je n'ai qu'un seul exemple, également choisi de manière extrêmement subjective, c'est le travail du commissaire d'exposition d'origine lituanienne, Raimundas Malasauskas. Donc cette dispersion, elle pourrait s'appréhender sous différentes formes. On peut penser à un va-et-vient entre différentes identités, par exemple l'usage de fausses identités, de noms inventés, d'alias. Et ça, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, cette idée que des commissaires d'exposition pourraient se créer comme ça des fausses identités, s'inventer des pseudonymes. Et d'ailleurs, ce jeu sur la question de l'identité ne correspond pas toujours à une remise en question profonde du statut de l'auteur. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est par exemple l'exemple de Jean Clerc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, mais Jean Clerc est un pseudonyme pour Gérard Régnier, qui était à l'époque conservateur au Musée national d'art moderne Centre Pompidou. Et là, dans ce cas-là, en tout cas, c'est mon point de vue, l'utilisation d'un alias n'avait pas du tout la volonté de remettre en question la question de l'auteur, bien au contraire. Elle avait plutôt l'ambition de l'affirmer. C'est ce que je trouve intéressant finalement avec cet exemple beaucoup plus contemporain qu'est le travail de Raimundas Malasauskas. Ce qui m'a interpellée finalement dans son travail curatorial, ce sont les processus qu'il a mis alternativement en place pour travailler aux côtés des artistes, et en particulier en leur laissant une place déterminante dans la construction à la fois matérielle et conceptuelle des expositions dont il était désigné comme le curateur, et même dans le contenu des livres dont il était désigné comme l'auteur, laissant les artistes intervenir, interférer dans le processus de construction d'un livre ou d'une exposition dont il était l'auteur. Alors je vais vous donner un exemple assez rapidement, et c'est une exposition dont j'ai choisi une seule image ici, une exposition qui s'appelait Done Fatal Holography, qui a eu lieu dans un tout petit espace d'exposition qui n'existe plus aujourd'hui, Tulips and Roses à Bruxelles en 2011. Et je vais juste vous lire, je vais commencer par vous lire une citation de la critique d'art Jennifer Titz qui décrit l'exposition dans un article de Metropolis M. Elle décrit le contenu de l'exposition, elle dit qu'il y avait 4 portraits sous forme d'hologrammes, ceux des jumeaux d'origine lituanienne dont le nom est Praspaliauskas, le portrait de l'artiste Darius Miksis et un portrait de groupe montrant Raimundas, Miksis et les jumeaux suspendus dans un cadre vide. Il y avait aussi un tapis et différents objets disposés dessus. Là, c'est l'image que vous voyez à l'écran. Il y avait aussi un autre portrait encadré, un portrait qui a été réalisé par le photographe Alexandre Gürkinger. Cependant, cette fois, c'est une photo de pub pour une campagne Hermès. Mais comme la photo a subi une rotation, elle paraît très étrange. Un autre portrait est accroché au mur, une copie d'une célèbre peinture lituanienne intitulée « The Sitting Woman ». Retournant la peinture, vous réalisez qu'elle a 2 faces et qu'elle a été faite dans le contexte d'un salon du mercredi, imaginé par l'artiste Alex Cecchetti et peinte par Roman Sein. Fin de citation. La personne du curateur Raimundas Malasauskas était ouvertement présente dans l'exposition. Ce qui était très étrange, c'est que son nom était à la fois cité comme auteur des œuvres et comme commissaire de l'exposition. Et cette superposition, finalement, d'assumer à la fois la figure du commissaire et la figure de l'artiste, tout en faisant référence à une multiplicité d'acteurs, de contributeurs à l'exposition, crée une ambiguïté qui était assez déroutante vis-à-vis, justement, de cette fonction du curateur. Il y avait une ambivalence évidente entre la fonction du curateur et la fonction de l'artiste. Ces deux figures semblaient se confondre sans qu'aucun signe ou déclaration explicite n'explique cette confusion. Cette exposition, elle tentait de créer un personnage utilisant une technique d'illusion, un personnage qu'on décrirait comme holographique. L'idée de départ de l'exposition était de se concentrer dans une seule image, d'imaginer, alors c'est une sorte un peu de vœu un peu pieux, puisque ça n'a pas complètement fonctionné, mais d'imaginer qu'une expo collective pourrait être paradoxalement indivisible. Qu'est-ce que, finalement, une question qui était posée, c'était qu'est-ce que serait une exposition collective dans laquelle on ne pourrait plus distinguer les différents auteurs. L'idée de l'hologramme, au départ, elle semblait séduisante. Alors, l'idée de l'exposition, au départ, elle était venue à Malasauskas après avoir visité le musée de l'holographie au MIT à Boston. Et il s'était dit, finalement, est-ce que l'hologramme ne peut pas être la solution pour créer cette exposition collective indivisible ? Ce serait que l'hologramme pourrait finalement contenir un certain nombre d'éléments hétérogènes, mais n'être qu'une seule image. Mais il s'est rendu compte que finalement, c'était contraire à l'idée même de l'hologramme, où en fait, dans le concept de l'hologramme, on ne devrait plus pouvoir distinguer l'idée d'un extérieur et d'un intérieur. Raimundas a alors envisagé comment lui-même, en tant que figure du curateur, pourrait incarner l'hologramme et refléter un ensemble complexe d'idées, de questions et d'éléments matériels mis en avant par les artistes invités et par lui-même suite à leur exploration des principes de l'holographie. Alors je sais que c'est peut-être compliqué, en particulier peut-être pour certains d'entre vous qui ne sont pas toujours très familiers avec l'art contemporain, mais je vais essayer de vous expliciter un tout petit peu plus la position que je vois à l'action dans le travail de Malasauskas, en particulier dans ce projet. Ce projet, finalement, qu'est-ce qu'il remet en question ? C'est la position du commissaire comme position d'extériorité. Ce serait que le commissaire, quoi qu'il arrive, il serait en dehors, verticalement, horizontalement, peu importe. Mais ce qu'il remet en question, c'est au-delà de ces relations de hiérarchie, l'idée même que finalement, la position de commissaire, elle serait extérieure à l'exposition. Elle serait quelque part en dehors. On ne sait pas où, mais elle serait en dehors. Pour Malasauskas, au contraire, il y a cette tentative que la figure du commissaire d'exposition elle soit remise à l'intérieur de l'exposition. Et dans ce contexte-là, il fait ça à partir de cette idée de l'hologramme et du personnage holographique qui, finalement, ne se situerait pas en compétition avec l'artiste, mais tenterait plutôt de déconstruire, de démanteler deux modèles institutionnels et du curateur et de l'artiste et de les réunir dans une seule figure topologique qui ne serait plus ni l'artiste tel qu'on le connaît, ni le curateur tel qu'on le connaît, mais une autre figure. Alors la dernière, et je conclurai avec ça, la dernière posture qui m'intéresse ici, et je pense qu'elle est aussi très pertinente par rapport à l'exposition dans laquelle cette conférence s'inscrit, c'est finalement l'idée de renoncer à une expertise et à un savoir-faire. Alors c'est quelque chose que Émilie a évoqué tout à l'heure aussi quand elle parlait du rapport entre pratique professionnelle en photographie et pratique amateur. C'est exactement le même, finalement, la même problématique qui se pose dans le cadre du commissariat d'exposition. Et l'exemple qui me semble pertinent pour parler de ça, c'est la commissaire d'exposition Anna Colline, qui est d'origine française, mais qui a été formée à Londres. Et je pense que c'est important de comprendre ce qu'il y a de critique dans l'idée de renoncer en tant que commissaire à une position de compétence ou une position d'expertise. Puisque, alors, peut-être que je vous donne des évidences, mais l'idée, ce n'est pas de dire les curateurs en tant que tels ne sont pas, n'ont pas d'expertise ou n'ont pas de compétences. Ce serait, on dirait alors que, c'est-à-dire que c'est que des généralistes, des gens qui correspondraient finalement à ce modèle néolibéral du manager. Et alors je vais jouer l'avocat du diable, je pense que c'est une vraie problématique du monde de l'art contemporain aujourd'hui, que les commissaires d'exposition deviennent ce modèle néolibéral du manager. Mais moi, ce n'est pas exactement ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un comme Anna Colline, elle a une expertise, elle a des compétences bien précises, mais elle décide, dans le cadre de sa pratique, de réfléchir à ce que ça veut dire que de renoncer à cette expertise ou de renoncer à cette compétence. Et ça, ça se retrouve dans son intérêt pour repositionner au centre de la pratique curatoriale la question de la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chercheur ? Alors, je vous renvoie aussi à des choses que j'ai pu dire un peu avant dans la conférence, que la passivité, c'était passer, c'était s'aventurer, c'était errer, quitte à faire des erreurs. Ben, c'est exactement ça. On est vraiment dans cette problématique-là. L'idée de dire qu'est-ce que ça veut dire de toujours remettre en question son savoir, de toujours aller chercher, s'aventurer dans de nouveaux champs de savoir et de finalement toujours laisser derrière soi la compétence et l'expertise en faveur d'autres formes de travail qui vont nous mettre au plus près des choses qu'on ne sait pas, nous ramener toujours au plus près de la question de l'ignorance et finalement de se mettre dans une position parfois de faiblesse dans laquelle la relation à l'autre et la relation à tous les acteurs qui vont faire de l'exposition un moment public va être différente, va être transformée, va être remise en question. Et je pense que c'est très important. Alors, Anna Colline, c'est quelqu'un qui a été formé en Angleterre, qui a été formé aux études de genre, qui a été sensibilisé aux études culturelles, et ça n'est pas du tout étranger à son positionnement, puisque justement, la pensée féministe et les études culturelles, à travers leur remise en question de la pensée coloniale et postcoloniale, a permis aussi de questionner ce rapport au savoir, et ce rapport au savoir qui est avant tout un rapport au pouvoir. Donc je vais terminer mon intervention sur ces mots, et j'espère qu'il reste un petit peu de temps pour pour vous donner la parole et vous laisser peut-être me poser des questions si voilà, si vous en avez ou s'il y a des choses aussi qui n'étaient peut-être pas complètement claires dans ce que j'ai pu vous dire. Je vous remercie. Je suis désolée, c'était dense, hein, j'en suis consciente. Bien sûr. Mmh. Tout à fait.
Abandonner cette
complètement. Oui, et moi, ça, c'est important pour moi, puisque en plus, je suis partie de la question, est-ce que le commissaire d'exposition, le curateur, n'est pas d'abord spectateur ? S'il ne fallait pas revenir à cette condition de spectateur du professionnel, enfin, de celui qui est qualifié comme professionnel, pour finalement laisser justement un ensemble de paramètres peut-être trop professionnels, où on serait trop limité dans la réflexion qu'on a du commissaire par le contexte professionnel, d'essayer finalement de se dire si on prend la figure du spectateur comme une figure de référence et qu'on essaye de mettre de côté cette dimension professionnelle, qu'est-ce que ça permet de repenser ? Et moi, c'était vraiment mon point de départ. Et c'est finalement ce point de départ-là et à quel point le spectateur est associé à la passivité qui a été le moment qui a lancé aussi cette réflexion sur la passivité. Aujourd'hui, c'est un peu la fiction qu'est la conférence. Je commence avec l'expérience inaugurale de l'hypnose, mais dans l'ordre de la thèse, c'est la question du spectateur qui vient en premier. Donc c'est vraiment important pour moi. Et en plus, alors ça c'est drôle, c'est une phrase qui est ressortie, c'est une citation de l'ancien directeur de la Tate Moderne, enfin qui est toujours, mais qui est en partance, qui s'appelle Chris Dercon. Quand j'ai fait mon interview avec lui, j'ai fait un entretien avec lui pour ma thèse, et il a dit le commissaire, la rencontre entre le curateur et le spectateur, c'est quelqu'un qui sait quelque chose qui rencontre quelqu'un qui sait autre chose. Et pour moi, c'est très, c'est très juste, et qu'aujourd'hui, l'art contemporain ne peut plus se réclamer d'un type de savoir, et que le commissaire, il peut avoir un savoir en histoire de l'art. C'est parfois même un handicap, je dirais. Parfois, le fait d'avoir une connaissance très précise de l'histoire de l'art est parfois même un handicap pour être à la rencontre de certaines pratiques d'artistes qui, eux, ont un rapport à l'histoire de l'art qui est souvent complètement différent, et d'artistes qui souvent se réclament d'autres types de savoir que celui-là. Donc ça, c'est, pour moi, c'est aussi très important. Ça a un impact sur la façon dont on forme les gens. Moi, je suis enseignante en école d'art. C'est une question qui se pose tous les jours dans la question de la pédagogie et de qu'est-ce qu'on doit enseigner à des étudiants qui veulent devenir artistes ou qui vont travailler dans le milieu de la culture, parce que bon, 5% de nos étudiants deviennent artistes, 95% vont faire autre chose, et en particulier dans l'ensemble du milieu culturel. Donc c'est sûr que c'est des questions, la question du spectateur est une question qui est centrale dans la réflexion sur la passivité, et je pense que c'est très important. Moi, là, c'est pas mon sujet, mais de remettre en question la soi-disante activité de tant de choses qui sont proposées aux spectateurs dans le lieu d'exposition. Parce que l'activité qui est imposée, quand le spectateur devient, et là c'est Christophe Kim qui le dit, devient finalement le cobaye de l'expérimentation, il n'est pas beaucoup plus actif que dans ce couple traditionnel actif-passif. Et bon, voilà, c'était pas le sujet aujourd'hui, donc, mais c'est... Bien sûr, complètement. Complètement. C'est pas du tout une apologie de cette passivité ordinaire où on essaierait de penser la place d'un individu et qui doit tenir cette place. Au contraire, moi, la façon dont j'essaie de repenser la passivité, c'est une passivité dans laquelle on n'assigne pas à quelqu'un une place. Proactivité, interactivité.
La proactivité qui est un truc vraiment lié en fait à des notions de management et donc d'exploitation de la force de travail en lui faisant croire qu'elle est acteur de son propre asservissement ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, ce qui m'a fait, peut-être qu'il y a une intéressant à penser une sorte d'entité, une sorte de pro-passivité, quelque chose d'assumé, une sorte de contemplation assumée de droit de retrait permanent.
Exactement. Ce droit de retrait, il est important. Et le terme de retrait, c'est un terme que j'ai trouvé très intéressant. Dans les faits, moi je peux vous le dire parce que j'ai soutenu ma thèse et ça a posé pas mal de problèmes, dans la pratique, c'est quand même complexe Et vous l'avez senti, c'est ambigu. Les commissaires dont je parle, ils sont loin d'être toujours en retrait, justement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de toute une palette autour de ça, et avant tout de remettre en question la passivité permet de questionner l'activité. Et j'ai relu récemment un texte qui est disponible sur Internet, c'est l'essence du néolibéralisme de Pierre Bourdieu, qui parle justement de toutes ces techniques de management participatif, implication du salarié dans l'entreprise, où ces questions de proactivité, les stock options, le télétravail, posent vraiment la question du rapport entre activité et passivité.
Et moi, je reviens parce que vous avez assisté à un moment sur la notion de musique.
Oui.
Et la façon dont vous terminez, en fait, en disant que c'est une interrogation sur le savoir, sur son savoir. Et alors,
oui.
Ouais.
Oui, oui, oui. Et c'est, je pense que l'idée d'aventure qui est arrivée, il y a beaucoup de termes qui pourraient être développés. Et c'est intéressant parce que le terme de mystique, c'est aussi, pendant ma soutenance, un terme qu'on m'a renvoyé. On m'a dit, mais qui semblait presque, la relation mystique semblait presque sous-développée. Pas assez déployé, et je pense que c'est un terme qui va m'occuper là dans les années qui arrivent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses autour de la question de la mystique qui peuvent être repensées dans le contemporain, en particulier à une époque où la question de la spiritualité devient aussi elle est au cœur aussi de la du politique, et donc l'idée de quête, de recherche, d'aventure, de s'aventurer dans des endroits où on ne sait pas où on va. C'est au cœur aussi de ce qui m'intéresse.
Parce que c'est vraiment la liberté, c'est la liberté de notre artiste.
On ne sait pas où on va. Exactement.
Mmh. Mmh. Il y a des textes aussi, en fait, mystiques. Mmh. Parce que c'est une question
remarquable.
Au-delà
du... Enfin, il y a bien c'est bien aussi. Ouais. Ah, vous d'accord. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais vous savez en savoir quand même. Mais justement, c'est intéressant, c'est qu'après, c'est aussi des problèmes, des méthodologies de recherche. Moi, j'ai vraiment... En fait, c'est Michel de Certeau qui m'a intéressée. Et par exemple, j'ai essayé de lire des textes mystiques. Et j'étais pas... En fait, ça m'éloignait trop de mon objet de recherche. Par contre, c'est un désir. Là, en termes de recherche, c'est vraiment un désir d'aller plus près de ces questions-là. Et il y a un très beau texte de Michel de Certeau sur l'ouvrage La science expérimentale de Surin, qui est magnifique par rapport à ça. Et la question de l'artiste, de la quête artistique est au cœur de ça. C'est très très beau. Ça a été publié dans le deuxième tome de La fable mystique, qui est finalement un patchwork de textes qu'il avait écrit, qui avait été publié dans d'autres contextes. Et c'est la science expérimentale. Merci. Merci.